des Actes, chapitre 2, 41-47. C'est un court passage, mais quand même. Et dès le commencement, la vie de l'Église. L'Église a été centrée sur quoi? Sur l'enseignement de la parole de Dieu. Les croyants n'étaient pas seulement des auditeurs passifs. Et le passage nous dit qu'ils persévéraient. Ils étaient assidus dans l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Un exemple frappant se trouve, vous vous rappelez l'histoire de Philippe auprès de l'Éthiopien, vous vous rappelez? L'Éthiopien, cet homme-là lisait le prophète Ésaïe, cet homme-là qui ne connaissait pas, c'était peut-être un prosélyte, un homme pieux. Donc, il était à Jérusalem, il lisait Ésaïe, mais il ne comprenait pas le sens. Ils ne comprennent pas ce qu'il lisait. Donc, alors Philippe lui explique le message de l'Écriture et lui parle de Jésus-Christ. Et à la fin, on voit que l'Éthiopien dit immédiatement, il a tout compris. J'aurais voulu être là pour entendre tout ce que Philippe a enseigné à cet Éthiopien. Je ne sais pas combien de temps il a passé avec lui, peut-être des heures là, pour enseigner. Qu'est-ce qu'il a enseigné d'après ce qu'on comprend après? Sûrement il a enseigné sur le baptême, sûrement il a enseigné sur le repas, même de la célébration du repas. Il a enseigné plusieurs choses, peut-être il n'a pas eu le temps de tout faire, mais il a enseigné ce que la Bible, le message de Dieu, donc de la parole de Dieu. Et il dit, l'Éthiopien, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc il a sûrement parlé du baptême. Cet exemple nous montre que quand la parole est enseignée et reçue avec foi, elle transforme la vie et pousse. Il nous pousse à quoi? Obéir à Dieu, en action. Bien entendu, tout cela est possible grâce à l'action du Saint-Esprit. Dans ce même principe, on le trouve chez les Thessaloniciens, quand Paul écrit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, qui ça, les apôtres, ils ont enseigné la parole de Dieu, fait entendre la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme quoi? Comme celle qui est vraiment la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En vous qui croyez, tous ceux qui croient en Dieu, en Jésus, en son sacrifice, il met en pratique la parole de Dieu. Et vous allez voir, si vous lisez 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, vous allez voir que ces chrétiens-là, il y avait des fruits de l'esprit qui avaient été donnés. Donc, comme l'Éthiopien, les Thessaloniciens ont reçu la parole et elle a produit une transformation intérieure réelle qui se manifeste dans leur foi, dans leurs œuvres même. Rappelons-nous ce que Jésus avait prescrit aux disciples. Faites de toutes les nations des disciples, il dit, baptisez-les et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, enseigné. Enseignez-leur, pas juste intellectuellement. Enseignez-leur, oui, il faut quand même apprendre intellectuellement, comme on a vu à Wana, les enfants retiennent la parole de Dieu, apprennent par cœur, mais surtout, enseignez-leur à garder. Vous voyez là, quand les apôtres ont enseigné la parole, ils n'ont pas juste enseigné, ils ont donné l'exemple. Vous allez voir, si vous lisez tout le livre des Actes des apôtres, vous allez voir qu'ils persévéraient dans l'enseignement, mais ils donnaient l'exemple aussi de ce qu'ils vivaient en ce qui concerne la parole de Dieu. Les prescriptions que Dieu avait laissées, Jésus avait laissées dans le temps. C'est exactement ce que les apôtres ont fait. Ils ont transmis les enseignements de Jésus. Ils ont aussi été guidés par le Saint-Esprit pour communiquer d'autres enseignements, comme on vient de voir avec Paul dans le chapitre en Corinthiens là, concernant le repas du Seigneur. Et tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament, tous les livres du Nouveau Testament, les épîtres aussi. Donc, ils posèrent, les apôtres posèrent les fondements par leur enseignement sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Paul le dit dans Éphésiens 2, 20, il dit, « Vous avez été, il parle à qui? Aux chrétiens. Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même, et ce n'est pas les apôtres et les prophètes qui sont le fondement, c'est leur enseignement. Mais il dit, les apôtres et les prophètes, Jésus lui-même étant la pierre de l'angle. C'est Jésus le fondement, mais c'est les apôtres qui ont enseigné tout ce que Jésus leur avait enseigné auparavant. » Donc, ce que nous allons voir dans le passage que nous étudions aujourd'hui, dans deux, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, 41-47. On ne va pas passer par chaque verset, OK? On va surtout nous concentrer sur le verset 42, OK? On n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc, Actes 2, 41-47, la vie de l'Église fondée sur quatre piliers essentiels. Donc, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, c'est quoi? Rompre le pain, ça veut dire, pour le temps, selon le grand texte, c'était vraiment la célébration du repas du Seigneur, ou la Sainte Cène qu'on appelle aussi, et les prières ou la prière. Donc, avant d'aller plus loin, allons dans Acte 2, s'il vous plaît. L'Église vient de voir le jour, OK, avec ces magnifiques discours de Pierre, la prédication de Pierre, et ces gens-là sont touchés par la parole de Dieu, ces Juifs-là. Okay, ils sont touchés par la parole, ils se sentent coupables, ils disent « qu'est-ce que nous allons faire ?» Et Pierre leur dit « repentez-vous, repentez-vous. » Et le verset 41, il dit « ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ces jours et furent ajoutés environ combien ? 3000 personnes, 3000 âmes. » Et le verset 42, « et ils persévéraient, wow, beaucoup de monde, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la partage du pain, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec quoi? Avec persévérance, ils étaient au temple, tous d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Ça fait penser aux prières aussi. Ils obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient... Chaque jour, il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça fait combien de temps, ça? Ça fait à peu près 2000 quelques années, 2000 ans. Donc, aujourd'hui aussi, il ajoute à l'Église ceux qui ont... Ça s'accomplit jusqu'ici. Ça s'est accompli en nous aussi. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Donc, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, rompre le pain, le repas du Seigneur, et les prières, chacun de ces éléments ont une place importante dans la vie chrétienne. Donc, la prière exprime quoi? Notre dépendance à Dieu. La communion fraternelle manifeste notre unité en Christ. Et la fraction du pain, on l'a vu tantôt, rappelle le sacrifice de Jésus et notre espérance. Mais tout cela repose sur le fondement, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est vraiment les prescriptions de Jésus. Sans l'enseignement, la prière risque de devenir superficielle. Sans l'enseignement, la communion fraternelle est fragile et la fraction du pain, ça devient une simple tradition. Sans l'enseignement de la parole de Dieu, le fondement. C'est pourquoi nous allons accorder une attention particulière à l'enseignement. Donc, la vie de l'Église n'a jamais été fondée sur des traditions humaines, ni sur des simples coutumes. Ce n'est pas les apôtres qui ont inventé des choses pour les responsables. Elle est avant tout dans les paroles même du Seigneur. Elle est fondée dans les paroles du Seigneur Jésus et dans l'enseignement des apôtres que le Saint-Esprit a conduit pour transmettre fidèlement la volonté de Dieu. Nous allons les parcourir ensemble pour voir comment chacun prendre sa place dans la vie de notre Église, dans notre vie, et pourquoi l'enseignement est le fondement qui soutient tous les autres aspects qu'on a vus. Donc, il persévérait en quoi? L'enseignement, quoi d'autre? Communion fraternelle, après, fraction du pain, et après, les prières. On va commencer par le dernier. Comme ça, on va finir vers une heure et demie, vers l'enseignement. Bon, c'est bon, ça promet. Donc, là, il persévérait dans quoi? Dans les prières. Ces nouveaux disciples avaient fixé des moments pour prier collectivement, et la prière était au cœur de la vie de l'Église grâce aux enseignements des apôtres. Ils ont d'abord été, quoi, enseignés, ces apôtres-là, par Jésus. Vous vous rappelez ce que Jésus leur dit, Seigneur? Et eux, les disciples demandent à Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, enseigne-nous à à prier. Voilà, nous avons l'enseignement du Notre Père. Jésus insiste même avec qu'il faut persévérer. Il leur dit qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser dans Luc 18, 1. Plus tard, ses disciples complètent et appliquent cet enseignement. On voit les Lula qu'on appelle les uns les autres. On en a beaucoup. Si vous avez fait le cours des membres, vous en avez trouvé beaucoup. J'en mentionne quelques-uns. Persévérez dans la prière, c'en est un, ça. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Donc, ainsi, la prière est un fondement central de la vie de l'Église, de la vie chrétienne aussi. Enseignée d'abord par Jésus et puis vécue, approfondie par l'Église selon l'exemple des apôtres. Et moi, je dis bien selon l'exemple des apôtres. Donc, la prière constitue une pratique quotidienne pour l'Église. Persévérance, soutien, et la prière soutient et édifie toute la vie de l'Église. Est-ce que vous avez vécu ça? Oui, je crois que oui. Vous voyez mes frères qu'ils prient à tous les dimanches, mais avant c'était 9 heures, là ça va tomber à 8 heures. Ils persévèrent dans les prières. Donc, sans l'enseignement de la parole de Dieu en ce qui concerne la prière risque de devenir quoi? Une obligation superficielle et même centrée sur nous-mêmes au lieu de s'aligner selon la volonté de Dieu. Et c'est la parole qui nous révèle ça. Donc il faut savoir, il faut apprendre ce que la parole de Dieu a en ce qui concerne la prière. Et il persévérait aussi, verset 42, on reste toujours dans le verset 42 et 46 aussi, il persévérait dans la fraction, il rompait le pain. C'est Jésus lui-même. Peut-être, je ne vais pas parler beaucoup, on en a déjà parlé tantôt en ce qui concerne la fraction du pain. Il l'a prescrit lui-même, Jésus-même l'a enseigné pour que nous n'oublions pas et qu'il a donné sa vie pour nos péchés. Et l'apôtre Paul confirme à l'Église cet enseignement. « Moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, » dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, « car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Qu'est-ce qui enseigne ce texte en ce qui concerne le repas du Seigneur? Donc, le repas du Seigneur nous rappelle son grand sacrifice. Il fortifie notre foi et nous tourne vers l'espérance de son retour. Nous le vivons ensemble, en Église, comme un symbole de notre unité en Jésus. Nous le vivons en Église, comme famille de Dieu. Donc, sans cet enseignement et de la parole par rapport au Seigneur, le repas du Seigneur risque de se réduire à une simple habitude religieuse, sans véritable prise de conscience en ce qui concerne le péché ou une réelle unité non plus. C'est pourquoi encore l'apôtre Paul avertit, il dit que chacun s'éprouve soi-même, il dit, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Donc, chaque fois que nous participons du repas du Seigneur, souvenons-nous que c'est la parole de Dieu qui nous aide à comprendre le vrai sens du repas du Seigneur. C'est lui qui mange et voit, sans discerner, sans comprendre le corps du Seigneur, le sacrifice, mange et voit en jugement contre lui-même, dit l'apôtre Paul encore. Mais non seulement il persévérait dans la partition du pain, la fraction du pain, pas partition, c'est en espagnol, pardon, rompre le pain, la fraction du pain, mais il persévérait aussi dans la communion fraternelle. Versets 42, 44, 45 aussi. Ils mettaient tout en commun, partageaient leurs biens et vivaient comme une famille spirituelle. À force de taquiner, ça sort naturellement. Excusez-moi là. Famille, je voulais pas taquiner cette fois-ci. Une famille spirituelle. Les disciples avaient déjà été enseignés par Jésus. Et posant le fondement de cette communion fraternelle. « Aimez-vous les uns les autres, » dit le Seigneur Jésus dans Jean 13, Jean 15. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » On peut en trouver d'autres enseignements en ce qui concerne la communion fraternelle. Les apôtres prolongent cet enseignement aussi. « Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Soyez pleins de compassion les uns les autres, envers les autres. C'est Pierre qui nous dit ça. Ayez de la miséricorde, exercez la bonté les uns les autres. Donc, vivre la communion fraternelle, c'est de s'aimer, soutenir, s'encourager les uns les autres par la parole, par l'enseignement de la parole de Dieu. Quand cette communion est pratiquée, elle fortifie la foi, manifeste l'amour de Christ et crée une Église unie et vivante. C'est bon de venir à tous les dimanches, ou pas juste le dimanche, les fois qu'on a des réunions. C'est bon la communion fraternelle, on peut partager ensemble, on peut s'édifier ensemble. Négliger cela conduit quoi? À l'isolement, égoïsme même, d'une foi superficielle. Donc, pratiquer la communion fraternelle est donc essentiel, frères et sœurs, pour grandir ensemble et marcher avec Dieu. Je vais rester collé au micro. Qu'est-ce qu'il dit Hébreu? Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Comment on peut le faire ça? Seul à la maison? Non, en communion. N'abandonne pas notre assemblée, il dit, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous. Comment nous allons nous exhorter? À l'Église, dans nos réunions, les uns les autres, mutuellement. Et c'est là autant, plus que vous voyez le jour approcher. Quel jour? Le dimanche? Non, le jour du Seigneur s'approcher. Nous sommes appelés à être en communion. La communion ne se limite pas juste à des relations humaines. Elle est enracinée dans l'enseignement de la parole de Dieu. Sans cet enseignement, la communion fraternelle devient fragile, reposant sur des affinités humaines seulement, plutôt que sur l'unité en Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Et finalement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est la première chose qui est nommée dans le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Placés en premier dans la liste parce qu'ils soutiennent tout le reste. Les apôtres transmettaient l'enseignement de Jésus. Ils expliquaient comment bien comprendre les Écritures de l'Ancien Testament à l'époque. Ils donnaient le nouvel enseignement de Jésus même. C'est parce que la foi vient par entendre et entendre la parole de Christ, dit la parole. Des fois, on dit la parole de Dieu. Non, c'est écrit de la parole de Christ. Et c'est la parole de Dieu. L'étude, l'enseignement de la Bible doit être au cœur de l'Église. Dieu nous parle par sa parole. Il nous transmet sa volonté. Une Église qui cesse d'enseigner la parole de Dieu, malheureusement, meurt. La croissance spirituelle de l'Église dépend de sa fidélité à l'enseignement de la parole de Dieu. Sans cela, l'Église perd, on dirait, sa boussole, il devient vulnérable aux faux enseignements, aux divisions, même à l'activisme. Donc l'apôtre Paul avertit les anciens d'Éphèse, il dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » C'est dur ces paroles-là, il avertit ces gens, ces anciens d'Éphèse-là. Mais il ajoute, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Il exhorte aussi Tite à garder la bonne doctrine en disant, « Sois attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée. » Enseignée par qui? Par lui-même, par les apôtres, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Quelle est cette saine doctrine, cette parole authentique? Et celle que le Saint-Esprit a transmise avec les écrits du Nouveau Testament. Paul, il dit, « Et nous, nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, dit Paul, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. » Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Nous comprenons les choses spirituelles que la parole nous enseigne. Donc, cette parole authentique est celle même de notre Seigneur Jésus. Et Paul le dit clairement, si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. En titre de conclusion donc, dans les passages que nous avons étudiés, nous voyons que dans l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu est au sein de l'Église locale, la prière, la communion, la fraction du pain. Sans cela, ils n'ont pas de profondeur. L'enseignement n'est pas seulement un pilier parmi d'autres, mais c'est le fondement qui donne sens et solidité à tout ce qu'on a mentionné. Il doit être constant dans l'Église. car c'est la parole de Dieu que les croyants, par qui les croyants grandissent. Jésus enseignait à ses disciples, vous voyez, Jésus enseignait à ses disciples de façon continue, sans relâche. J'aime ce passage de Marc 4, 1, il dit, Jésus s'est mis de nouveau, il avait déjà enseigné ses disciples, et donc il dit, il s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès lui d'une grande foule, qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Il fallait qu'il s'assoie sur une barque parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et toute la foule était à terre, près de la mer. Il enseigna longuement en parole. Ça tombe bien pour aujourd'hui. Il enseigna longuement. Je suis l'exemple de... Il a enseigné longuement. Cela nous fait nous rappeler à ce qu'est Paul. Hein? Vous vous rappelez Paul qui aimait tellement enseigner et qu'il pouvait parler pendant des heures. Vous vous rappelez ça? À Troas, ce jeune homme, Eutychus, c'est difficile son nom là, Eutychus, je ne sais pas, assis à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme là? Il s'endormit pendant le discours et tomba du troisième étage. Il n'y a pas de fenêtre ici, il n'y a pas d'Eutychus ici, tout le monde était bien assis. OK, mais des fois, écoutez, des fois, je vois les gens. Et les voix géants qui penchent d'ici, qui penchent là, en avant, en arrière. Puis, c'est pas un message, c'est un massage que vous êtes en train de recevoir, je crois, des fois. Mais je sais que des fois, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Des fois, les passages peuvent être longs. Oui, c'est vrai. Mais c'est nécessaire pour nous, frères et sœurs. Heureusement, Dieu le releva, ce jeune homme-là qui tombait mort, là, par l'intermédiaire de Paul. Et ce soir-là, les croyants repartirent encouragés, non seulement par l'enseignement reçu par l'apôtre Paul, de l'apôtre Paul, mais aussi par ce miracle. Donc, s'il y a quelqu'un qui tombe, là, on va être doublement béni, là. Et il tombe, il revient à son sens. On va être doublement béni. Le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné dans la foi chrétienne. Vous êtes d'accord avec ça? Chaque croyant doit savoir qui est Dieu, comment il a créé le monde, pourquoi le péché a apporté la souffrance, la corruption. Il doit surtout recevoir l'enseignement clair de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Évangile, comment Dieu est venu sur terre et a envoyé son Fils pour nous sauver du péché et de la perdition. Le chrétien, nous devons apprendre à vivre comme une nouvelle créature, d'abord dans nos foyers puis dans la société. En attendant le retour de notre Seigneur. Tout cela ne peut pas s'apprendre en un seul jour. Là. C'est pourquoi l'Église doit être comme une école. On appelle l'école du dimanche, comme une école spirituelle, où chaque croyant vient régulièrement, je dirais plutôt tous les dimanches, recevoir un enseignement fidèle et continu de la parole de Dieu. Je ne parle pas juste de messages. Je parle de ce que nous allons parler tantôt à 9 heures. Plus tard, dans le livre des Actes, dans le chapitre 5, nous lisons « Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Christ Jésus. » Dès les premiers jours, l'Église, l'enseignement et la parole a occupé une place centrale. Donc, les nouveaux croyants avaient besoin de grandir dans la connaissance de Christ. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Mon désir, c'est de le connaître, lui, le pouvoir de sa résurrection. Comment comprendre, comment vivre le quotidien? C'est pour ça qu'il persévérait dans l'enseignement. Il le recevait avec attention, soif d'apprendre, comme un trésor indispensable à leur vie, par leur marche chrétienne. Cet enseignement n'était pas seulement une transmission de savoir, mais nourriture spirituelle qui façonnait leur foi, transformait leur vie. Qu'est-ce qu'il dit, l'apôtre Pierre? Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole. J'aime ce passage. Vous avez déjà vu un bébé qui cherche le lait, là? Vous avez vu ça, là? Pierre, il dit, désirez comme un enfant nouveau-né la parole de Dieu. Donc, comme Paul le rappelle à Timothée, toute écriture, il y en a qui le savent par cœur, non, est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, redresser, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli est propre à toute bonne œuvre. Donc, toute écriture, toute la parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre. Aujourd'hui encore, l'Église ne peut pas se construire, ne peut pas grandir solidement sans l'enseignement fidèle de la parole de Dieu. On ne peut pas. Les chants, la communion fraternelle, le service, la mission sont essentiels, mais tout cela doit être enraciné dans l'instruction biblique. Tout ce que nous croyons et nous pratiquons ne vient pas des traditions humaines. Il vient de quoi? De l'enseignement de la parole de Dieu. Nous l'avons appris par la parole de Dieu. Alors que nous recommençons tout ce qu'on a vu, les enseignements, nous venons nous rappeler que ce n'est pas une simple activité de plus, là. C'est un moment où Dieu veut nous fortifier, même des fois nous corriger, nous équiper. Dieu parle différemment à chacun de nous. À chaque dimanche, je crois que vous venez, vous entendez les enseignements, vous recevez les enseignements. Dieu vous parle différemment, mais c'est nécessaire pour nos vies. Frères et sœurs, persévérons ensemble dans l'enseignement de la parole, même si cela demande parfois discipline, patience, se lever tôt. Chaque moment où nous nous approchons de la parole de Dieu pour l'écouter et l'appliquer dans nos vies, le Seigneur agit puissamment. Et nous, en nous, il agit puissamment en nous par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi que nous allons grandir en sainteté, comme une Église saine, fidèle, enracinée en Christ. Jésus, en priant au Père, pour ses disciples, mentionne « Sanctifie-les par la vérité, par ta vérité. » La parole, ta parole est la vérité. Il n'y en a pas d'autre chose. La parole de Dieu, c'est la vérité pour nous tous. La parole de Dieu est l'instrument par lequel Jésus sanctifie son Église et rend aussi son peuple saint. Donc, recevons l'enseignement biblique, non comme une option, mais comme un fondement essentiel pour notre vie spirituelle. Car c'est Jésus lui-même qui bâtit son Église par l'action vivante de son Saint-Esprit. Je vous laisse avec deux encouragements, deux exhortations qui ne viennent pas de moi. Ça vient de la parole de Dieu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Que la parole du Christ habite en vous richement. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Amen.